Il est très exactement 18h sur France Culture, l'heure du journal. Présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le Conseil d'État autorise l'accès aux archives de François Mitterrand sur le Rwanda. Le chercheur François Graner travaille sur le rôle de la France dans le génocide rwandais de 1994. Il était à l'origine du recours en justice. Les explications de Nathanaël Charbonnier dans un instant. Boris Johnson dénonce les extrémistes qui tentent de récupérer les manifestations antiracistes au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique leur reproche de vouloir censurer le passé en s'attaquant au statut. En Italie, le président du Conseil, Giuseppe Conte, entendu par la justice, la procureure de Bergame, enquête sur les responsabilités politiques dans la gestion de la crise de la Covid-19. En France, les restaurateurs franciliens veulent rouvrir leurs établissements dès lundi, mais ils attendent toujours le feu vert des autorités, qui n'interviendra peut-être que dimanche avec l'intervention d'Emmanuel Macron. Christophe Castaner est-il le maillon faible du gouvernement? Des centaines de policiers continuent à manifester aujourd'hui contre le ministre de l'Intérieur, le décryptage de Rosalie Lafarge. C'est une décision inédite qui devrait permettre de mieux connaître le rôle de la France lors du génocide rwandais en 1994. Le Conseil d'État vient d'autoriser le chercheur François Graner à consulter les archives de François Mitterrand sur le Rwanda. L'ancien président avait déclenché l'opération Turquoise pour mettre fin au massacre. Mais certains accusent la France d'avoir soutenu les dirigeants Hutus à l'origine du génocide contre la minorité Tutsi. Les précisions de Nathanaël Charbonnier.
Il aura fallu 5 ans de bataille judiciaire pour qu'enfin un chercheur soit autorisé à travailler sur les archives rwandaises du président François Mitterrand. Autant dire que la victoire est importante car elle permet à la fois aux autres chercheurs qui le souhaiteraient de consulter ces documents, mais elle devrait permettre surtout de mieux comprendre le rôle de la France durant ce génocide des années 94-95. C'est l'attente en tout cas du chercheur François Graner, auteur du livre « L'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda ».
La plupart des choses, on les connaît déjà, mais surtout l'important est d'avoir un fonds d'archives avec une certaine extensivité. Par exemple, dans les dossiers que je demande, il y avait les dossiers de Bruno Delay, le conseiller Afrique de Mitterrand. Pour faire un travail serein, un travail de fond, pour comprendre exactement qui savait quoi, à quel moment, qui a pris quelle décision à quel moment, c'est important d'avoir un accès assez complet.
Les archives de François Mitterrand qui s'ouvrent aux chercheurs, la décision ne peut être que saluée au nom de la vérité et de la transparence. Mais attention, explique l'ancien ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, qui se trouvait lui au Rwanda en 1994, les archives les plus intéressantes se trouvent peut-être ailleurs.
Tous les documents doivent être consultés, mais je sais, et pour avoir parlé avec François Mitterrand souvent, on n'y trouvera pas grand-chose. Moi, je pense que les archives les plus intéressantes, ce sont les rapports de la DGSE. Ceux-là étaient les plus précis et les plus inquiétants.
Enfin, il faut savoir que ces archives avaient déjà été en partie ouvertes en 2015 par François Hollande, mais avec un accès limité, puis par Emmanuel Macron, mais là encore, à une commission d'historiens spécialement désignée pour l'occasion.
Nathanaël Charbonnier, merci. Au Royaume-Uni, Boris Johnson s'invite dans la polémique autour des statues symboles du passé colonialiste du pays. Le Premier ministre comprend les manifestations antiracistes en hommage à George Floyd, mais il dénonce ceux qui ont pris en otage les rassemblements pour censurer le passé. Antoine Gignot nous appelle de Londres.
Faire disparaître les statues, c'est falsifier notre histoire. Voilà les mots de Boris Johnson, outré de voir les manifestants s'attaquer à la sculpture qui représente Churchill, un homme dont il a écrit la biographie et qui a, dit-il, sauvé l'Europe d'une tyrannie fasciste et raciste. Boris Johnson appelle aussi les manifestants à cesser de sortir dans les rues.
We should not support a demonstration.
Nous ne devrions pas soutenir des manifestations qui, si on se fie à ce qui s'est passé, vont selon toute probabilité se terminer par des actions délibérément violentes. Malheureusement, une minorité croissante de personnes ont confisqué le mouvement et l'utilisent pour attaquer la police et faire des dégâts sur des monuments publics.
Des monuments désormais protégés par des échafaudages. Le maire de Londres a fait placer des barrières autour d'un mémorial et de plusieurs statues. Ça ne suffira peut-être pas à éviter les affrontements. Le mouvement Black Lives Matter annule le rassemblement prévu ce week-end, mais des groupes d'extrême droite et des antifascistes se donnent rendez-vous demain dans le centre de Londres. Et à Poole, dans le Dorset, c'est la statue de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, qui cristallise les tensions. Le personnage a créé un système d'entraide unique entre jeunes du monde entier, mais il a aussi soutenu le régime nazi, disent ses détracteurs. Le conseil municipal, après avoir envisagé de démonter la statue, l'a finalement laissée en place sous la pression de dizaines de personnes, notamment en uniforme, venues se prendre en photo à tour de rôle à côté du monument.
Antoine Gignot, notre correspondant au Royaume-Uni. Au Liban, les manifestations ont repris hier soir alors que la crise s'intensifie. Si le pays est parvenu à maîtriser la pandémie de Covid-19, son économie est au bord du gouffre. La livre libanaise a perdu en 8 mois 70% de sa valeur face au dollar. Nous sommes en direct de Beyrouth avec Aurélien Colli. Bonsoir.
Bonsoir.
Aurélien, cet effondrement de la monnaie nationale a réveillé la contestation sociale qui avait secoué le Liban à l'automne dernier.
Oui, chute inexorable de la livre libanaise qui s'est encore accélérée ces derniers jours. Le taux officiel fixe, c'est 1 dollar pour 1500 livres, mais on a atteint hier 1 dollar pour 5000 livres. Ça veut dire que si vous aviez 15 livres en septembre, vous aviez 10 dollars. Aujourd'hui, vous avez à peine 3 dollars. Alors hier soir, après une nouvelle baisse, des milliers de Libanais sont descendus dans la rue, dans tout le pays. Des manifestants ont coupé des routes en incendiant des pneus et des poubelles, ont attaqué aussi des banques qui ont été saccagées. Dans la journée encore, il y a eu des rassemblements visant notamment la Banque centrale du Liban, le palais présidentiel ou le siège du Premier ministre. Comme lors de la révolte d'octobre dernier, c'est le départ de toute la classe politique héritée de la guerre civile qui est réclamée. Une classe politique accusée de corruption, de clientélisme, d'avoir mis l'État, les banques, l'économie en faillite. Et comme en octobre dernier, on a vu aussi des Libanais de toutes les confessions ensemble contre le système des partis confessionnels. Aujourd'hui, 2 conseils des ministres ont eu lieu à Beyrouth pour tenter d'éteindre le feu. La Banque centrale a aussi annoncé une injection de dollars dans l'économie pour enrayer la chute de la livre. Pas sûr du tout que ça suffise pour calmer la colère populaire, car le Liban, vous le savez, traverse la pire crise économique depuis la fin de la guerre civile. Le chômage est à 40% et la chute de la livre a fait exploser l'inflation. Aujourd'hui, plus de la moitié des Libanais sont passés sous le seuil de pauvreté.
Aurélien Colli, correspondant au Liban, direct de Beyrouth. Merci. Tout comme en France, en Italie, la justice pourrait bien demander des comptes aux politiques pour leur gestion de la pandémie. À Bergame, l'une des villes les plus touchées par la Covid-19, le parquet mène plusieurs enquêtes et la procureure s'est déplacée aujourd'hui à Rome pour procéder à l'audition du président du Conseil italien, Giuseppe Conte. C'est une correspondance d'Antonino Gallofaro.
Une audition de 3 heures pour le président du Conseil. Les magistrats sont venus à Rome pour écouter sa version des faits. L'épidémie en Lombardie, la région la plus touchée dans l'un des pays européens les plus martyrisés par le coronavirus, aurait-elle pu être contenue? Les juges continuent de chercher des réponses en interrogeant aussi les ministres de la Santé et de l'Intérieur. Aucune accusation pour l'heure, tous sont entendus comme témoins informés. Une fois de retour en Lombardie, les magistrats devront démêler les fils d'une affaire en réalité politique. Rome et Milan se renvoient depuis des semaines la responsabilité. Deux villes dans la région de Bergame auraient-elles dû être déclarées zone rouge comme Codogno, ville du Passion 1. Le président de la Lombardie accuse Rome de n'avoir rien fait. Le Premier ministre rétorque que le gouverneur avait le pouvoir de décider lui-même. Giuseppe Conte avait préféré début mars déclarer toute la Lombardie zone rouge avant de mettre en quarantaine tout le pays. La justice se trouve donc au milieu d'une vieille lutte politique entre le Nord et ses gouverneurs de la Ligue à l'extrême droite et en faveur de plus d'autonomie et le gouvernement central, prise également entre deux feux, les victimes. Leurs familles ont déposé plainte dans l'espoir de connaître la vérité.
Antonino Gallofaro, correspondant à Rome, rappelons que la pandémie de Covid-19 a déjà fait plus de 34 000 morts en Italie selon le dernier bilan. L'Italie, le 4e pays le plus endeuillé au monde, après les États-Unis, le Royaume-Uni et le Brésil. Emmanuel Macron a réuni ce matin le conseil scientifique pour évoquer la nouvelle phase du déconfinement prévue le 22 juin. Il a ensuite présidé un conseil de défense. Rien n'a filtré de ces 2 réunions. Le chef de l'État, à l'évidence, se réserve les annonces pour son intervention télévisée dimanche soir. Parmi les secteurs qui espèrent une accélération du déconfinement, il y a les professionnels de la restauration. En Ile-de-France, qui reste en zone orange, seules les terrasses sont autorisées. Les cafetiers et les restaurateurs consommateurs veulent obtenir l'ouverture totale de leurs établissements, et ce dès lundi. Mais s'il faut attendre la parole présidentielle dimanche pour préparer la réouverture le lendemain, ce sera trop tard. Selon un sondage du Groupement National des Indépendants, 80% des restaurateurs franciliens veulent rouvrir lundi. Didier Chenet, le président du groupement, réclame le feu vert dès ce soir.
Nous attendons une chose, c'est la première, on nous dit que Paris est passé en zone verte et que donc les restaurants vont pouvoir ouvrir, définitivement ouvrir dans leur totalité, tout en respectant bien entendu le protocole sanitaire. Nous sommes déçus que nous n'ayons pas encore aujourd'hui l'information. On va perdre un week-end et puis s'il faut attendre la déclaration du président de la République, ça veut dire qu'on ne pourra pas ouvrir lundi car on ne peut pas ouvrir et s'approvisionner comme cela entre le dimanche et le lundi. Voilà, donc ce que nous attendons, c'est cela, la première des choses. Et puis la deuxième des choses, un allègement, juste un allègement du protocole sanitaire s'agissant de la restauration debout, et donc qu'il y ait la possibilité dans les cafés-bars que l'on puisse donc se restaurer debout et non pas simplement assis.
Didier Chenet, président du Groupement National des Indépendants, il répondait à Yvan Planteil. Un autre enjeu important de cette nouvelle étape du déconfinement, ce sont les établissements scolaires. Faut-il alléger le protocole sanitaire dans les écoles? Emmanuel Macron, là aussi, en dira plus ce dimanche. Mais le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, s'est déjà déclaré favorable à cet allègement. Du côté des enseignants, la question fait débat. À l'image de Karine Lavalette, directrice d'école dans le Val-d'Oise, elle est représentante du syndicat UNSA.
Il est difficile d'appliquer toutes les règles, tous les gestes barrières. Ça met quand même une certaine pression dans l'école, notamment pendant les récréations ou à l'accueil. Mais même dans la classe, c'est vrai qu'il n'est pas évident d'enseigner avec un masque sur la bouche, surtout quand on enseigne à des petits. Ça met quand même une vraie distance avec les élèves. Donc c'est sûr que s'il était allégé, pour nous, les choses seraient plus simples.
Ça vous semble faisable et utile, sachant qu'il nous reste 3 semaines avant les grandes vacances?
En tout cas, si c'est pour les apprentissages, en 3 semaines, c'est pas sur 3 semaines qu'on va changer les choses. On est déjà dans un système qui fait qu'on est, enfin c'est ce qu'on se dit avec mes collègues tous les matins, on est un petit peu entre la garderie et l'école. On peut pas manipuler, on peut pas, enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire comme d'habitude. Donc bon, pour 3 semaines, je trouve que c'est énormément d'énergie déployée pour finalement très peu de temps.
Karine Lavalette, directrice d'école dans le Val d'Oise, sur l'antenne de France Info, elle répondait à Marc Fauvel. La mobilisation des policiers contre Christophe Castaner prend de l'ampleur. De nouveaux rassemblements ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes de France, Marseille, Bordeaux, Avignon ou Strasbourg. À chaque fois, des dizaines de fonctionnaires ont jeté leurs menottes au sol. Tous s'estiment lâchés par le ministre de l'Intérieur dans le débat sur les violences policières. Ils n'acceptent pas notamment l'interdiction de la clé d'étranglement comme méthode d'interpellation. Parmi les rassemblements les plus spectaculaires, celui de Paris sur les Champs-Élysées, Stéphane Père.
Oui, des syndicats de police qui ont défilé donc ce matin de l'Arc de Triomphe en bloquant une partie des Champs-Élysées pour finir jusque sous les grilles du ministère de l'Intérieur. Une minute de silence pour les collègues blessés ou tombés. Et puis la Marseillaise entonnée plein poumon comme une réponse républicaine aux accusations de racisme et de violence au sein de la police nationale ces derniers jours. Alors le ton des représentants syndicaux était très dur. Cela fait partie évidemment du jeu syndical pour obtenir satisfaction. Mais il faut noter que peut-être jamais depuis son arrivée place Beauvau, les syndicats n'avaient eu des mots aussi durs, aussi tranchants contre Christophe Castaner. Qui avait relativement la cote pourtant parmi les gardiens de la paix, mais qui semble les avoir ulcérés en donnant l'impression d'avoir agi sous la pression des militants antiracistes. Alors sur le fond, ce que l'on comprend, c'est que Christophe Castaner a reconnu à mi-mot lors des premières rencontres avec les syndicats hier que les annonces l'année dernière avaient été mal préparées. Le ministre de l'Intérieur fait amende honorable sur le soupçon avéré de racisme qui devait déboucher sur des suspensions immédiates. Il faudra des faits avérés désormais et pas de simples soupçons, dont acte. Le ministre aurait aussi reconnu à mi-mot lors de ces rencontres un malentendu sur l'interdiction de la clé d'étranglement. Contrairement à ce que tous les policiers avaient compris, ils devraient pouvoir continuer à utiliser la prise par le cou pour interpeller et mettre à terre des individus dangereux en vue de les menotter. Ce sont les points d'appui sur le cou et la nuque qui sont totalement proscrits, eux. La nuance est importante et Christophe Castaner devrait le préciser comme l'usage qu'on craint du taser.
Stéphane Père, merci. C'est donc Christophe Castaner et lui seul qui cristallise la colère des policiers. Emmanuel Macron avait envoyé en première ligne son ministre de l'Intérieur en début de semaine pour répondre aux manifestants mobilisés contre les violences policières. Il n'a fait qu'attiser le courroux des forces de l'ordre. Rosalie Lafarge, le locataire de la place Beauvau, ressort fragilisé de cette opération de déminage.
Il y a bien une collègue de Christophe Castaner qui veut croire que la colère des policiers va retomber, c'est la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, elle l'a dit sur France Info.
J'imagine que c'est un mouvement d'humeur qui s'apaisera. Moi, je pense que la police, qui est une police républicaine, partage exactement ce que nous disons. C'est-à-dire que partout où il y a lieu, il faut lutter contre le racisme.
Mais parce qu'il y voit peut-être un peu plus qu'un mouvement d'humeur, François Bayrou s'est rendu dans un commissariat de Pau pour dénoncer la mise en accusation des forces de sécurité. Et si le président du Modem, allié de la majorité, n'est pas allé jusqu'à réclamer la démission du ministre de l'Intérieur, d'autres, dans l'opposition, à droite et à gauche, s'en sont chargés.
Ça fait partie du folklore républicain français que de réclamer la démission du ministre quand un dossier embêtant s'est profilé.
Le politologue Roland Kayrol, directeur de recherche associé à Sciences Po.
En l'occurrence, il faut bien dire que Christophe Castaner, dans sa fameuse conférence de presse improvisée, était là en mission du président de la République et du Premier ministre. Enfin, on sait bien que les ministres peuvent aussi servir de fusible. Il est évidemment, de ce point de vue, menacé. On a plutôt l'impression que le pouvoir préférerait, quitte à remplacer M. Castaner au moment du vrai remaniement ministériel, en juillet ou en septembre, il préférerait sans doute qu'il y ait un compromis acceptable négocié avec les syndicats.
Des syndicats qui aujourd'hui demandent à être reçus non plus par leur ministre, mais directement par le président de la République.
Rosalie Lafarge, merci. Les syndicats du constructeur automobile PSA sont en colère pour rattraper les retards liés à la fermeture de l'usine située à Ordin dans le Nord. La direction va faire appel à 531 salariés polonais et espagnols du groupe. Des salariés qui sont encore en chômage partiel à cause de la crise de la Covid dans leur pays et qui seront payés comme en France. À l'issue d'une réunion du comité social et économique extraordinaire d'hier, les syndicats ont dénoncé une décision qui met de côté les intérimaires français. Ils étaient encore 500 avant le confinement. Le reportage de Raffaella Biri-Vicente.
Si Frédéric Jarosset comprend la solidarité avec les autres sites du groupe, dont celui de Gliwice en Pologne, où plus de 80% des salariés sont encore en chômage partiel, le délégué FO s'inquiète pour les intérimaires.
Il laisse quand même sur le carreau beaucoup d'intérimaires. Au niveau de la région, ça fait un grand manque au niveau de ces salariés, parce qu'il faut vivre aussi l'économie.
Des intérimaires dont 270 sont encore en contrat avec PSA, un contrat suspendu mais qui court jusqu'à juillet et qui les sécurise un minimum, assure Luc Samson. Le DRH.
Ils peuvent bénéficier du dispositif d'activité partielle parce que s'ils n'étaient pas en contrat avec nous, ils ne pourraient pas. Certes, c'est l'activité partielle. Pour autant, elle est quand même protectrice jusqu'à 84% de la rémunération. D'autre part, l'ensemble des salariés qui sont en contrat suspendu peuvent être réorientés vers une autre entreprise. Ils n'ont pas les pieds et les mains liés avec nous.
Mais les syndicats craignent aussi que la direction systématise les prêts de salariés qui ont toujours existé, notamment entre les sites français, mais à petite échelle. Franck Théry est délégué CGT.
Elle veut créer une plateforme internationale de l'emploi. Elle voudrait que les salariés de PSA soient mobiles dans tous les pays d'Europe.
Non, rétorque le DRH qui assure qu'il s'agit d'un dispositif exceptionnel lié à la crise du Covid. Il table pour le moment sur un prêt de salariés de 3 mois.
Raffaella Biri-Vicente de France Bleu Nord. On l'a appris tout à l'heure, un incendie est en cours à la base navale de Toulon, à bord du sous-marin La Perle. Ce sous-marin nucléaire d'attaque est en cale sèche pour une refonte complète. Le feu s'est déclaré en fin de matinée. La préfecture maritime de Méditerranée et la marine nationale se veulent rassurantes. Franck Cognard, pas de risque radioactif, il n'y avait plus de combustible nucléaire à bord.
La Perle était en cale sèche depuis janvier. À bord, il n'y avait pas de combustible, pas d'armes, pas de batterie, et cet incendie n'a fait aucun blessé, ni parmi les équipes du chantier qui travaillaient sur place, ni parmi les secours mobilisés, qu'ils soient marins-pompiers ou sous-mariniers venus aider. Évidemment, on ne connaît pas encore l'origine ni l'étendue des dégâts matériels, mais le feu et ses conséquences vont évidemment retarder le retour à la mer de ce sous-marin d'attaque. La France en possède 6 du genre. Le SNA, sous-marin nucléaire d'attaque, est un sous-marin qui est propulsé par une chaudière nucléaire, mais qui n'emporte pas d'armes atomiques. Son rôle est de traquer les navires adverses, d'escorter par exemple le Charles de Gaulle. C'est un bâtiment qui mesure 75 mètres, qui pèse 3000 tonnes. La Perle embarque habituellement à peu près 70 marins. Seuls les SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins, 140 mètres, 14 000 tonnes et 120 marins, emportent eux des missiles nucléaires sous les océans.
Franck Cognard, merci. Et confirmation à l'instant, il n'y a pas de blessés dans cet incendie. Et la ministre des Armées, Florence Parly, a indiqué qu'elle se rendrait sur place dès que les conditions de sécurité le permettront. La disparition d'une figure du théâtre français, Marcel Maréchal, est mort la nuit dernière à l'âge de 83 ans. Comédien et metteur en scène, Marcel Maréchal avait fondé La Criée, le Théâtre National de Marseille. Il avait aussi dirigé le Théâtre du Rond-Point à Paris. Le temps demain restera instable sur la plupart des régions. Dans le sud-est, 16 départements sont en vigilance orange, pluie et orage. Ailleurs, un ciel variable et parfois pluvieux. Les températures le matin évolueront entre 9 et 18 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales restent fraîches pour la saison. Elles seront comprises entre 18 et 25 degrés demain après-midi. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.